Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour et même bonjour. Pourquoi? 5 fois bonjour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est l'été. L'été météorologique. Allô, Mathieu?
Ouais.
Ah, il fait beau, ça fait du bien.
Oui, Louis est arrivé en vélo, c'est l'été qui commence.
Ah oui, c'est ça que j'ai dit, c'est l'été, les mollets sortent. Salut Louis de Vernis.
Bon matin.
Il rougit. Alors Louis de Vernis, notre chroniqueur, ben, tu sais, on va tout faire ça à l'envers aujourd'hui. Donc tu vas nous parler aujourd'hui de dans ta chronique insolite.
Une chronique historique, le titre m'a fait sursauter, donc je vais vous en parler. Je pensais pas trouver dans une même phrase nazi et Bambi. Je vais vous raconter une histoire qui date d'il y a 90 ans. Les nazis détestaient Bambi et l'ont même censuré. La vérité de l'histoire du célèbre fan de Walt Disney. Je vais vous raconter tout ça, c'est édifiant.
Ah, ça va peut-être faire rapport avec la une des journaux aujourd'hui, avec cette gang de luberlus qui sont promenés avec une banderole. Je me souviens d'un Québec blanc. Oh là là. Daniel, grand-maman Daniel Rioux.
Ben oui, grand-maman, pour la première fois, un petit-fils beau et en santé. Ils sont tous beaux, nos petits-fils, nos petits-enfants, quand on les a, petites-filles et petits-fils. Mais il faut continuer à faire des chroniques.
Oui.
Hein? Puis là, je sors, j'ai vu cet article, et puis je me dis, faut répéter. C'est aller au resto, entre autres, le titre de l'article, en fauteuil roulant, puis c'est un parcours du combattant. C'est un article qui a paru, c'est un reportage plutôt à la facture en 2025. Mais en fouillant ailleurs, j'ai découvert qu'en 2018, puis en 2017, on parlait du même style de combat. Donc, c'est peut-être bon de répéter.
Plus ça change, plus c'est pareil.
Et voilà, c'est mon sujet aujourd'hui.
Et puis moi, je vous propose une entrevue avec Gabriel Zabeau pour parler de ses regards amoureux de Garçon altéré qui est présenté dans le cadre du Festival Transamérique au Théâtre Prospero. Il sera aussi question de ce doctorat honoris causa qui a été donné à l'UQAM, par le l'UQAM à Mercedes Roberge, une coordonnatrice de la table des regroupements d'organismes communautaires et bénévoles, mais quelqu'un qui a fait beaucoup pour les personnes minorisées et qui aussi se bat pour changer la carte électorale, la façon de faire des élections, pardon, au Québec. Et puis, on va aussi parler de quoi faire quand on veut sortir en campagne, sortir de la ville, mais sans trop sortir de la ville, parce que c'est pas tout le monde qui a des autos puis qui peuvent se déplacer. Parfois, on a une mobilité réduite. Alors, on va parler avec la directrice générale du groupe UNI des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement, GAEP, pour parler de ce qu'on peut faire cet été sans trop sortir de la ville. Puis je vous l'ai dit, c'est l'été. Oui, bien, partout, le Québec, l'Est du Québec, les provinces maritimes, c'est l'été, il fait beau. Il y a peut-être un risque de pluie ou d'orage en après-midi un peu partout, mais c'est bon, c'est normal, c'est comme ça l'été dans l'Est du pays, de 19 à 22 degrés. L'indice UV est élevé. Ben oui, il faudra qu'on commence à parler de ça. Alors, mettez-vous de la crème si vous sortez la peau à l'air un peu. Et puis, c'est de la pluie et de la neige à Terre-Neuve. Les autres ne sont pas sortis du bois. C'est du soleil et risque d'averses et d'orages au Manitoba et Saskatchewan, 22 à 28 degrés. Avec une alerte météo pour l'Alberta, de la pluie forte. On parle de 50 à 100 mm de pluie aujourd'hui, 9 à 11. Et c'est du soleil en Colombie-Britannique, partout, partout. Je tente de vous parler aujourd'hui un petit peu de l'éphéméride du jour. 1926, c'est la naissance de... Ah, si je chante « Happy birthday to you ». Ah oui, Marilyn Monroe,
oui.
Qui est venue au monde en 1926, elle a eu 100 ans aujourd'hui, hein, sous le nom de Norma Jane Mortensen à Los Angeles. Et puis, 1937, c'est la naissance de l'acteur états-unien Morgan Freeman. Ah, quel acteur incroyable. Et puis, 74, on l'aime beaucoup aussi, hein? Jagged Little Pill, You Oughta Know, Alanis Morissette. Et puis aujourd'hui, tu sais, puisque c'est la journée, c'est tes grands-mamans maintenant, bien, c'est la Journée nationale des parents aujourd'hui qui est célébrée un peu partout pour honorer le rôle essentiel des parents dans l'éducation et le bien-être de leurs enfants. Et c'est la Journée mondiale du lait aujourd'hui. Alors, l'importance des produits laitiers. Puis, je suis vegan, mais parfait, c'est pas grave. Je fais quand même des montées de lait de temps en temps. On s'en va en musique.
Je connais les brumes claires, la neige rose des matins d'hiver. Je voudrais tout qu'on ne voit jamais. Mais l'oiseau s'est envolé, et moi jamais je ne le trouverai, car j'ai vu l'oiseau voler. secret d'homme, je le comprends bien. Car vois-tu, je peux te raconter combien l'oiseau est parti à regret. Si un jour tu m'écoutais, tu m'apprendrais tout ce que tu fais. L'oiseau part.
C'était le groupe Horloge Simard et la chanson L'Oiseau.
Un petit tour maintenant dans l'actualité, dans tous les médias ce matin, en une évidemment, cette manifestation de suprémacistes blancs survenue samedi au parc des vétérans Shawinigan qui suscite une vague de condamnations unanimes. Une vingtaine d'individus masqués y ont déployé une banderole haineuse affichant le slogan « Je me souviens d'un Québec blanc ». La première ministre du Québec, Christine Fréchette, s'est dite profondément choquée par ces propos inacceptables. Sur les réseaux sociaux, le chef de l'opposition, du Parti libéral, donc Charles Milliard, a condamné sans retenue ce rassemblement horrible et diviseur, tandis que le co-porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, a qualifié l'acte de lâche et raciste, rappelant que l'identité québécoise ne dépend pas de la couleur de la peau. Sur le terrain, la Société du Québec analyse la situation et l'événement alors que les oppositions pointent du doigt des groupes extrémistes déjà surveillés par la sécurité publique. Dans la presse ce matin, un scandale de faux recyclage éclate alors qu'une enquête de la presse révèle les pratiques nébuleuses de la firme TerraCycle ou TerraCycle. Des matières résiduelles récupérées au Québec grâce à des boîtes de collecte payantes ont parcouru plus de 1600 km pour finir vraisemblablement dans un dépotoir de l'Illinois. Les journalistes ont suivi le trajet de ces déchets à l'aide de traceurs GPS dissimulés, démontrant qu'ils ont transité par les installations rudimentaires d'un sous-traitant de la région de Chicago avant d'être envoyés vers l'un des plus grands sites d'enfouissement de cet État des États-Unis. L'entreprise nie les faits, mais un gestionnaire du centre de transbordement qualifie de foutaise la promesse de recycler la totalité des rebuts reçus. Par actualité maintenant, en Beauce, 30 mai, une étude majeure publiée par des chercheurs de l'Université Laval lève le voile sur les mécanismes de la maladie de Parkinson. L'équipe scientifique menée notamment par Frédéric Calon et Thérèse Di Paolo et Cynthia Tremblay a découvert qu'une modification biochimique précise de la protéine Parkin joue un rôle déterminant dans l'évolution de la maladie. En temps normal, cette protéine assure la protection de la substance noire, la région cérébrale qui orchestre la motricité humaine. Les résultats démontrent que la perte de dopamine force la Parkin à se transformer et à s'agglutiner en amas toxiques, entraînant la destruction des neurones. Publié dans la revue scientifique Parkinson's Disease, cette avancée permet d'envisager de nouveaux traitements, ciblant directement cette transformation moléculaire afin de freiner la progression des symptômes moteurs chez les patients. Dans le quotidien du 31 mai, une découverte majeure réalisée par des chercheurs de l'Institut Hôpital Neurologique de Montréal, menée par le Dr Adil Haroud, révèle que la sclérose en plaques peut être détectée dans le sang jusqu'à 10 ans avant les premiers signes cliniques. Pour parvenir à ces conclusions publiées dans la revue Annals of Neurology, l'équipe scientifique a analysé des échantillons sanguins issus d'une vaste biobanque afin de suivre l'évolution moléculaire de patients bien avant leur diagnostic. La méthode repose sur le dépistage précoce de modifications spécifiques parmi un groupe de protéines sanguines agissant comme des auto-anticorps qui s'attaquent donc par erreur au système nerveux central. Ce protocole ouvre la voie à un simple test sanguin capable d'identifier les personnes à haut risque et d'amorcer des traitements de thérapie protectrice avant l'apparition de dommages neurologiques irréversibles. Dans La Liberté, au Manitoba, 30 mai 2026, un éditorial publié par l'éditorialiste Michel Lagacé brosse un tableau préoccupant de la crise de la pauvreté et de la toxicomanie et de l'itinérance au Manitoba. L'éditorialiste souligne que la province est actuellement la seule au pays à avoir déclaré l'état d'urgence sanitaire en raison d'une forte augmentation des infections au VIH. Michel Agacé rapporte que malgré des investissements majeurs du gouvernement manitobain dans son programme de relocalisation des sans-abri, le phénomène continue de s'aggraver, notamment à Winnipeg, où les résidents et les commerçants dénoncent une hausse de la violence et de la consommation publique de drogue. À cette situation s'ajoutent les difficultés financières d'organismes dont de première ligne, comme le Siloam Mission, qui est forcé de procéder à 16 mises à pied en raison d'un déficit prévu de 4 millions de dollars. En vue des prochaines élections municipales fixées au 28 octobre, Michel Agacé rappelle que la gestion de cette dégradation sociale demeure une responsabilité collective majeure. Et puis, je retourne dans les grandes actualités de la journée. Le ministère iranien des Affaires étrangères accuse les États-Unis de violer à nouveau le fragile cessez-le-feu entre les deux pays après des frappes états-uniennes en Iran qui ont entraîné des représailles militaires iraniennes. Alors, ces attaques portent un nouveau coup aux négociations indirectes qui patinent déjà pour mettre fin à cette guerre déclenchée le 28 février par une attaque conjointe israélo-américaine contre l'Iran. Et d'autant que Téhéran réitère que le nucléaire iranien ne fait pas partie à ce stade de discussion, contrairement aux attentes de Donald Trump. L'Iran rappelle également qu'un cessez-le-feu au Liban, un autre conflit donc qui est là, en fait, Israël contre l'allié, l'allié iranien, là, Hezbollah, qui est combattu par Israël. Il y a eu d'ailleurs des nouvelles frappes qui sont ordonnées et la France qui demande au Conseil de sécurité de l'ONU de se réunir d'urgence parce qu'on dit que rien ne justifie l'escalade majeure qui est en cours au sud du Liban. Et ça me permet de terminer avec la grosse nouvelle dont tout le monde va parler aujourd'hui. Céline Dion prolonge son histoire d'amour avec Paris. La vedette internationale a annoncé lundi une série de 10 nouveaux concerts en mai 27 dans la même salle où elle doit faire son grand retour en septembre dans la capitale française. Des dates donc entre le 8 et le 29 mai sont programmées. Et pour ceux, celles et celles qui avaient été déçus de ne pas avoir de billets, ce sont les premiers et les premières à pouvoir acheter des billets dans ces nouveaux spectacles. Ben, je me suis dit, aussi bien écouter Céline Dion. Hein? On y va.
Malgré tout, puisqu'on ne peut danser que... dit une île dans le sang. Au-dessus des abîmes, on s'arrête des cimes. Tournons puisque le monde ne tourne plus rond.
La chanson Dansons de Céline Dion.
Ah, quand je suis allé voir Céline Dion à Las Vegas, moi je suis pas allé à Paris pour la voir, mais je l'ai vu à Las Vegas il y a très longtemps. T'entendais là, tous les Québécois qui étaient dans la salle, on savait, on t'aime Céline.
Ah oui, hein.
Ah Daniel, hey oui. Daniel, tu vas te faire dire bientôt, on t'aime, non, je t'aime grand-maman.
Ben oui, on va. Là en ce moment il pleure quand il il va se manifester en pleurant, mais quand il va le dire pour la première fois, ça doit être assez particulier.
Ah, tu vas pleurer toi-même.
Oh mon Dieu Seigneur, oui. Puis aussi la chanson de Céline Dion est belle. Moi je trouve qu'elle est belle. Elle chante bien quand elle est dans les douces tonalités là.
Oui,
elle a
oui.
Tellement une belle voix. Hein?
Je trouve que la chanson est quand même appropriée dans le monde dans lequel on vit présentement.
Oui,
il
oui,
me semble
oui.
que ça va pas bien. On essaie. Moi j'essaie de ne pas le dire trop souvent que ça va pas bien parce
non.
que ça empire la situation. Alors une chanson comme ça, je pense que ça fait du bien.
Ça fait du bien. Puis ça va pas mieux parce que voyez-vous, il y avait un reportage
oui.
pour vous dire.
On y va.
Pour répéter, pète et répète, là. Ouais. Fait que en février 2025, il y avait un reportage diffusé à l'émission La Facture. C'est concernant les fauteuils roulants, puis pas seulement le fauteuil roulant, mais le parcours du combattant, que d'aller au resto, au théâtre et d'aller dans les magasins. Mon Dieu, que c'est un combat de tous les instants. Et puis, justement, c'est qu'on y parlait dans cette émission-là, on y mentionnait que les personnes en fauteuil roulant réclament une meilleure accessibilité au restaurant. Puis elles en ont surtout assez de se buter à des obstacles et demandent au gouvernement, à Québec, de réagir et d'agir surtout. Alors on pense à des escaliers devant la porte d'entrée, des vestibules étroits ou encore des accès aux toilettes difficiles. Quand j'y vais, je m'imagine une pauvre personne se rendre là. C'est impossible même dans certains cas. Puis une simple visite au restaurant, ben c'est toute une expédition. Donc, il y a ici, lors de l'émission, les journalistes ont rencontré Linda Gauthier, qui est plongée dans ses souvenirs, et elle regarde des photos d'une femme qui danse avec son partenaire. Mais depuis, elle a la sclérose en plaques, depuis ce temps. Et ça, c'est sûr que c'est une condition qui a bouleversé sa vie. Et maintenant, dorénavant, elle est en fauteuil roulant. Elle mentionnait dans ce reportage que ce qui a fait le plus mal, c'était d'arrêter de danser que d'arrêter de marcher. Et elle a transféré donc cette énergie vers l'activisme. Et elle est aujourd'hui, Linda Gauthier, cofondatrice du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Et elle dénonce depuis ce temps le manque criant d'accès au restaurant pour les personnes à mobilité réduite. Et comme je vous mentionne, ça peut être bien ailleurs que les restaurants aussi. Hein. Il y a les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant se butent souvent à des obstacles lorsqu'elles décident de visiter ce type de commerce. Pourtant, on mentionne qu'en vertu du Code de construction du Québec, les bâtiments qui sont construits après 1976 doivent être accessibles aux personnes en fauteuil roulant. C'est une exigence qui ne s'applique pas, évidemment, aux édifices construits avant cette date. Donc tous les bâtiments après 1976 devraient donner accès aux personnes en mobilité réduite, en fauteuil roulant, entre autres. Mais comment savoir si un restaurant est accessible aux personnes à mobilité réduite ou pas? Ben, faut faire peut-être une petite recherche, comme regarder dans la région montréalaise, il y a le site Resto Montréal qu'elle consulte, Linda Gauthier. Mais dans ce site, en 2025, il y avait 8600 restaurants qui y sont annoncés. Écoutez bien le nombre qui est petit, moins de 10% affiche la mention accès fauteuil roulant. Ça,
wow.
C'est en 2025, sur 8600. Donc, c'est vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont inaccessibles. Alors, elle est allée visiter Linda Gauthier avec les reporters, 6 restaurants qui seraient accessibles. Et le résultat, c'est que 5 d'entre eux n'offrent pas l'accessibilité universelle. Ça veut dire un concept voulant que toute personne, quelles que soient ses capacités, puisse utiliser de façon autonome des services offerts à l'ensemble de la population. Les obstacles qui ont été remarqués, ce sont les marches à monter devant la porte qui empêchent carrément les personnes en fauteuil roulant. On pourrait penser aussi aux marches qui vont vers le bas, qui descendent, hein, plus bas. On pense aussi, je le vois déjà dans ma tête, des toilettes situées à l'étage ou encore pire, au sous-sol, alors qu'il n'y a aucun ascenseur qui permet l'accès justement à une personne qui est en fauteuil roulant. Et puis, Linda Gauthier ne peut pas entrer dans ce restaurant à cause de l'absence de rampes ou c'est des rampes. Pourtant, le commerce visité était annoncé comme étant accessible sur le site Resto Montréal. Donc, c'est pour faire attention quand on consulte ce site-là. Il y aurait peut-être d'autres trucs, comme par exemple téléphoner au restaurant en question pour vérifier si c'est accessible aussi. Resto Montréal a affirmé à la facture qu'avec des milliers de restaurants répertoriés, ils mettent tout en œuvre pour maintenir les informations à jour, mais il y a des inexactitudes qui peuvent parfois se produire encore. Alors, selon Linda Gauthier, le ministre québécois du Travail, Jean Boulet, qui était là en 2025 et est encore en poste en 2026, elle lui suggère de légiférer pour que l'accessibilité universelle soit obligatoire dans tous les restaurants, qu'il impose aussi des mesures qui aient plus de mordant, soutient-elle. Bien, ce n'est pas tout d'entrer dans le commerce, hein. Il faut encore pouvoir se déplacer à l'intérieur et avoir accès aux toilettes. Et puis, Dominique Salgado, qui lui y va avec un clin d'œil. On s'organise toujours pour ne pas trop boire avant de partir et un coup sur place de peur d'avoir trop envie. Donc, lui, il se dit, c'est vraiment pas drôle. On est restreint même au niveau de nos envies. Lui, il est directeur général du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, CAPVICH, et il réclame aussi une loi qui a des dents et davantage de surveillance. Il mentionne aussi que ce serait le fun qu'il y ait des inspecteurs qui vérifient la conformité. Il n'y a pas de chef d'orchestre et pour lui, il n'y a pas de police de l'accessibilité universelle au Québec. Puis pourtant, il devrait y en avoir. Les gens du milieu veulent voir des inspecteurs qui ne répondent pas seulement à des plaintes, hein, parce qu'on répond, on va avoir des plaintes, mais qui assurent que les restaurants sont réellement accessibles. Arrêtons de se plaindre, mais faisons que ça marche. Une brigade est mise sur la sensibilisation et c'est justement, faut sensibiliser les brigades du CAPVICH à cette réalité-là. Parfois, dans les restaurants, c'est le mobilier qui n'est pas tout à fait adéquat pour les personnes à mobilité réduite, hein, ou des fois des petits passages pour se rendre à une table. Je pense, entre autres, à des cafés-terrasses où il faut tasser 46 chaises pour se rendre à la table. Donc, c'est d'autres formes d'inaccessibilité. La brigade en question a visité en 2024 200 restaurants pour faire valoir l'accessibilité universelle. Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question, si je vais quelque part, est-ce que je vais être bon pour circuler? Est-ce que je vais être bon pour aller à la salle de bain? Beaucoup de gens s'empêchent de sortir à cause de ça. Et Rénal Pelletier est un membre de la brigade et pour lui, c'est pas normal. Donc, la facture a accompagné la brigade dans l'une de ses interventions. Et Rénal Pelletier, qui lui est qui est dans l'équipe de brigade, il dit quelquefois c'est une question d'aménagement. C'est des petits gestes qui font une grande différence dans la vie de bien des gens. Ici, on mentionne, on avait en entrevue à la facture M. Razouk, qui est directeur général du restaurant Au Vieux du Lutte, qui a confirmé à la facture qu'il allait apporter des changements. Comme il mentionnait lors de l'entrevue, lors de l'émission en 2025, on fait pas ça pour la charité. Il y a des personnes qui viennent manger dans le restaurant, ça facilite leur vie. Puis ça nous amène plus de clients aussi, hein, c'est un client qu'on perd, hein, parce que ça, c'est quelque chose qui devrait être mis de l'avant quand on parle aux commerçants. Il y a des chiffres qui ont été mentionnés durant l'émission. Il y a plus de 3 millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus qui ont une incapacité liée à la mobilité. Et ce nombre augmente sans cesse aussi. Il faut penser au vieillissement de la population. Daniel Jean, qui est directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec, a déposé en 2024 un rapport sur l'accessibilité des petits bâtiments et il pense son constat sur 305 petits bâtiments à Montréal, à Québec et à Saguenay. Pas un seul ne respecte l'ensemble des 57 critères minimaux. 57 critères minimaux d'accessibilité déterminés par l'Office. Bien, pourtant, c'est pas coûteux, me dit M. Jean, qui défend l'idée qu'adapter un commerce n'est pas une fortune. Avec des subventions, ça pourrait coûter autour de 40 $ par jour sur une période de 5 ans pour attirer une clientèle qui va augmenter vos revenus. Donc, c'est comme une, c'est une situation qui pourrait être gagnante pour des deux côtés, clients et commerce. Il y a une architecte, Isabelle Cardinal, qui, elle, s'occupe depuis 10 ans des solutions, qui trouve qu'elle cherche des solutions pour des bâtiments qui sont beaucoup plus âgés. Puis du côté, ben là, on parlait du ministre du Travail qui était interpellé, Jean Boulet, qui était interpellé en 2025 et qui l'est encore aujourd'hui en 2026. Au moment du reportage de la facture, le ministre a refusé de parler à la facture. Son attaché de presse, par contre, a dit « Nous sommes pleinement conscients qu'il y a une amélioration de l'accessibilité et des infrastructures qui est essentielle. Cependant, il a ajouté que cela peut représenter un coût important pour les propriétaires, mais là, on parlait de subvention. C'est pourquoi on cherche à trouver un équilibre raisonnable entre l'application de nouvelles normes et de pouvoir rendre le tout accessible. J'étais intéressée à passer ce reportage ou cette chronique aujourd'hui parce qu'on se répète et parce que je regardais plus tôt dans mes notes, en 2018, dans l'itinéraire, on y faisait justement, on en parlait, hein, 2018, 2020.
Hein, c'est quand même 8 ans plus tard. Écoute, on arrive à la fin de cette partie de l'émission, puis je voulais pas, surtout pas passer sous silence que nous, on ne se reparlera pas avant l'automne.
Bien, avant l'automne, puis je vais vous le dire tout de suite, il se pourrait peut-être que je fasse des petites surprises.
Ah, bien là, je serais content. Moi, je vais animer hein, tout le mois d'août. Je vais remplacer Hélène pendant le mois d'août, puis un petit peu aussi à la fin du... En fait, au début de juillet. Fait qu'on a peut-être la chance de se parler à ce moment-là.
Bien, je vous aviserai, il se pourrait, parce que j'ai des gros projets en vue, puis là, ben je sais pas les dates, puis je suis dépendante un peu de certains échéanciers avec des gens.
Oui.
Donc, ça se pourrait que je vous retrouve tous, les auditeurs, et vous, Denis Martin.
En septembre. Peut-être, oui.
Alors,
bonnes vacances à toi. Bonnes vacances et puis bon plaisir avec ton petit-fils. Et puis nous, en deuxième partie de cette émission, on reçoit Gabriel Zabot. On va parler de la pièce « Ses regards amoureux de garçons altérés ». Et tout d'abord, on va parler aussi avec Louis de Bernès. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Je suis parti pour de bon au bon moment. Dis-moi pourquoi je suis resté trop longtemps. Merci pour rien, je veux plus dans ma vie. Celle qu'on a bâtie ensemble, celle que tu as démolie.
Yeah, see, I thought you knew. Thought you had somebody new. Thought you had somebody waiting for you. Guess I wasn't wrong. Guess I knew all along. Messing it all up secretly, hoping you'd get gone. And I don't even care, I ain't listening. And I don't even know I'm staying. Let me really show you what you're missing, yeah, yeah.
Je suis parti pour de bon, oh bon moment. Dis-moi pourquoi je suis resté trop longtemps. Merci pour rien, je veux plus dans ma vie. Celle qu'on a bâtie ensemble, celle que tu as démolie. Je suis parti pour de bon, oh bon moment. Dis-moi pourquoi je suis resté trop longtemps.
Yeah, can't take you lying, done with the crying. Feels like I'm dying, openly trying to end it on a good deal for us. But you ain't even buying. Tired of your empty lies, tired of your empty eyes. Fake apologies and fake smiles.
J'suis parti pour de bon, oh bon moment. Dis-moi pourquoi je suis resté trop longtemps. Merci pour rien, je veux plus dans ma vie. Celle qu'on a bâtie ensemble, celle que tu as démolie. J'suis parti pour de bon, oh bon moment. Dis-moi pourquoi je suis resté trop longtemps. Merci pour rien, je veux plus dans ma vie. Celle qu'on a bâtie ensemble, celle que tu as démolie.
Dis-moi pourquoi je suis resté trop longtemps.
Pour de bon, c'est le parti pour de bon, pardon, c'était Yanni Bella et Zach Chico.
Un samedi, j'étais invité par le Festival Transamérique à aller voir la pièce de théâtre Querelle de Robert Val, qui est une adaptation du roman de l'autrice Kev Lambert. Ça a été publié en 2019 et donc on est sept ans plus tard. Évidemment, ça a été adapté par le metteur en scène Olivier Artaud, qui est également directeur artistique du théâtre Le Trident à Québec. C'est donc une adaptation de ce roman qui, grosso modo, pose la question, est-ce que la violence est justifiée pour faire avancer nos droits, surtout quand on est un groupe minorisé, un groupe qui est écrasé. C'est une pièce de théâtre qui met aussi en relief la ville versus, ou la région versus la ville. Toutes les questions d'identité et de désir sexuel. Alors, la trame de fond, c'est ce querelle qui est un Adonis, un homme absolument d'une beauté magnifique, qui est interprété ici par Philippe Thibault-Denis. Évidemment, il rentre bien dans le rôle et qui est donc le désir de tous ces jeunes éphèbes adolescents de Robert Val. Au moment où il y a une crise, la Syrie est en grève, l'économie ne va pas bien. Alors, c'est une adaptation qui, moi, à mon avis, rend le roman de l'autrice Kev Lambert plus accessible. Évidemment, la littérature et le théâtre, c'est deux choses, mais bon, beaucoup d'humour. Et je dois dire que le récit est porté par celle qui incarne Jézabel, Ariel Charest, qui est absolument géniale. Je souligne aussi Vincent Paquette, qui joue tout plein de rôles là-dedans, les trois jeunes qui mettent le feu partout. Alors, je ne vais pas tout révéler de la pièce. Une très belle adaptation. C'est sûr que c'est pas facile d'adapter un roman, puis je trouve qu'on s'en est bien sorti dans cette façon-là. Moi, j'avais vu la version qui s'est présentée au Trident. C'est pas tout à fait pareil, c'est un petit peu quelques petites différences, dont entre autres aussi le rôle principal qui là-bas était joué par l'acteur Gabriel Lemire à Québec, mais ici c'est donc l'acteur Philippe Thibault-Denis. Puis malheureusement, je vous parle de ça, il reste deux représentations et c'est complet. Alors peut-être que ça sera présenté à d'autres moments parce que c'est une pièce de théâtre qui a vraiment bien fonctionné. Hein, c'est un peu comme la pièce Jeannette qui a été jouée au Trident, dont tout le monde parle. Et oui, et j'ai vu aussi en passant la pièce de théâtre Quichotte au théâtre du Nouveau Monde. Et je recommande chaudement. Pour toutes les bonnes raisons, c'est bon, c'est bien fait. La danse, la mise en scène, la direction d'acteur, pour moi, c'est un gros, gros coup de cœur. Debbie Lynn Schwartz, Benoît McGuinness, et j'ajouterais aussi Yann Aspiro, que je connais comme ça, comme comédien, et je l'ai vu comme danseur. J'ai même fait la blague quand je lui ai parlé. J'ai dit, tu pourrais devenir un danseur au bar de danseurs, le stock qui s'en mêle, parce qu'il fait du pole dancing. Sur ça, on va aller faire un petit tour dans l'insolite avec Louis de Bernis. Du pole dancing, tu fais pas ça. Hein?
Non, je ne fais pas ça, mais je vais vous parler...
Du vélo.
Oui, du vélo. Et je vais vous parler d'une autre œuvre littéraire qui a aussi été adaptée. C'est une insolite à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Historique, j'ai appris plein de choses et je voulais vous en parler aujourd'hui. Première chose que j'ai apprise, c'est, je ne sais pas si vous saviez, depuis 2017, Winnie l'ourson est interdit en Chine.
Ah bon?
Oui, il est impossible d'en parler sur les réseaux sociaux sans être rapidement censuré. La raison, c'est que Winnie l'ourson est souvent comparé au dirigeant chinois Xi Jinping. ce petit ours jaune débonnaire représente depuis plus de 10 ans dans le pays une forme de dissidence, en fait, les gens qui veulent se moquer du régime et qui s'attirent ainsi les foudres de Pékin. Cette histoire est un peu farfelue, mais elle n'est pas sans rappeler celle d'un autre héros emblématique des studios Disney. Il y a exactement 90 ans, en 1936, le célèbre fan Bambi était interdit par le régime nazi. Je vous raconte donc cette histoire. À l'époque, ça n'était pas encore un dessin animé, parce que Bambi est apparu à l'écran en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. Avant ça, c'était une œuvre littéraire. Le régime d'Adolf Hitler, arrivé au pouvoir, on le rappelle, en Allemagne en 1933, a eu dans le viseur le livre original duquel s'est ensuite inspiré Walt Disney, Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, œuvre d'un auteur juif autrichien, Felix Salten, publié en 1923. C'est un roman d'apprentissage, à la base, qui mettait en scène un faon innocent au milieu des bois, et ce livre a fini brûlé sur les places publiques lors d'autodafés. Pourquoi ? Parce que le ministre de la propagande nazie de l'époque, Joseph Goebbels, voyait dans l'histoire de Bambi une allégorie de la persécution des Juifs en Europe. À première vue, pourtant, le conte, tel qu'on le connaît tous, qui est devenu un best-seller, semblait assez inoffensif. Comme dans ce qu'on a tous pu voir à l'écran, l'adaptation faite par Walt Disney, Félix Salten raconte les premiers pas du jeune Bambi, ça vient de Bambino, enfant en italien, d'où le nom de Bambi. Son évolution donc dans une nature sauvage, un quotidien paisible, rapidement rattrapé par la réalité brutale et violente du monde, à savoir bien sa mère qui est tuée par des chasseurs et Bambi doit fuir. Contrairement au dessin animé, la grande différence avec l'œuvre originale, parce que le dessin animé lui est devenu une ode à la nature sauvage, à la protection des animaux, le danger ne vient pas seulement des humains dans le livre. Dans le récit de Félix Salten, qui était lui-même adepte de la chasse par ailleurs, Bambi doit aussi se méfier des autres animaux de la forêt, qui le trahissent, qui n'hésitent pas à lui faire des coups bas. Le faon doit se cacher et s'inquiéter de tout le monde. Une ambiance assez pesante, même de traque, de haine, de suspicion imprègne le récit de ce livre, trahissant en réalité les propres insécurités de l'auteur, un juif viennois qui, au début des années 20, sent monter autour de lui l'antisémitisme et son cortège de persécutions en Europe. En 1923, l'antisémitisme en Autriche est très fort et il est partout, expliqué par exemple en 2020 au micro de France Culture, Maxime Rovert, qui est philosophe et auteur de la préface d'une réédition du Bambi de Félix Salten. Une partie des peurs que raconte Bambi ne sont pas spécifiquement liées aux menaces qui pèsent sur les Juifs. Elles sont liées aux terreurs, aux épreuves qu'ont traversées l'ensemble des membres de la société autrichienne de l'époque. Mais les Juifs vivent une situation encore plus particulière, puisque non seulement ils ont vécu la Première Guerre mondiale comme les autres, mais en plus, ils continuent d'être l'objet d'une sorte de soupçon. Dans Bambi, c'est vraiment cette atmosphère qui est une menace latente. Félix Salten, de son vrai nom Sigmund Salzmann, est issu d'une famille juive de Hongrie. Il a déménagé en Autriche, qui était l'un des rares pays européens à accorder la pleine citoyenneté aux Juifs au début du XXe siècle. Il adopte un nouveau nom à l'époque, un nom de plume, pour qu'il sonne moins juif, et devenu journaliste et écrivain touche-à-tout. Il évolue dans la haute société de Vienne. Il côtoyait par exemple, imaginez, des personnes comme Sigmund Freud, qu'on a connu aussi, ou encore Theodor Herzl, qui est connu comme le père du sionisme. Dans Bambi, le personnage par exemple du cerf, le père du faon, qui le recueille et le guide à travers la forêt dangereuse, n'est pas sans rappeler Herzl, qui a été l'un des premiers à souhaiter un état juif, où son peuple pourrait vivre en sécurité. Ce conte, donc, Bambi, tel qu'on le connaît moins, cette œuvre littéraire, est profondément inscrit dans son temps, bien plus qu'une simple histoire pour enfants autour de la perte de la maman, raconte le philosophe Maxime Rovert. Derrière l'impression de peur, la fuite perpétuelle des animaux, impossible de ne pas faire le lien avec l'expérience personnelle de l'auteur pour qui Bambi s'adresse aux adultes. Ce sous-texte, à l'époque, n'échappe pas non plus à la propagande nazie qui fait la chasse à la littérature juive et voit dans Bambi une dénonciation du sort des Juifs en Allemagne. Les animaux traqués représenteraient les Juifs, les chasseurs à leur trousse seraient les nazis. Et donc, il y a 90 ans, Bambi est inscrit sur la liste noire des ouvrages interdits par le régime et est brûlé sur les places publiques. Atterré par l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, et de plus en plus angoissé, l'auteur Félix Salten se réfugie en Suisse en 1939. Il mourra en 1945, affecté par la perte de Vienne, de sa maison, de ses amis, de toute sa vie en fait. Avant ça, le créateur de Bambi, imaginé, qui a été aujourd'hui assez oublié, il avait cédé son œuvre pour $1000 à l'époque à un réalisateur, qu'il a lui-même revendu ensuite à Walt Disney en 1938. Il sort aux États-Unis et au Royaume-Uni avant la fin de la guerre, en 1942, ce long métrage. Bon, au passage, vous l'aurez compris, ont été gommés tous les messages contre l'antisémitisme, tout cela a été enlevé. Disney entretenait à l'époque des liens avec un groupe de personnalités antisémites à Hollywood. Tout est compliqué dans cette histoire et dans l'histoire du monde.
Comme dirait l'autre, tout est dans tout.
Exactement. À l'époque, édulcoré et américanisé, privé de son allégorie politique initiale, le film devient une petite fable aux enfants, doit faire oublier les horreurs de la guerre qui sont en cours. L'adaptation, il la verra, Félix Salten, avant trois ans avant sa mort, il la visionne à Zurich. Paraît-il, et on peut le comprendre, qu'il n'aurait guère aimé cette interprétation qui a effacé tout le message politique qu'il y avait derrière. C'est pourtant bien la version de Disney qui a depuis traversé les décennies, qui a occulté l'œuvre originale. Et voilà pour cette histoire assez incroyable qu'on ne soupçonnerait pas derrière ce dessin animé.
Ah, l'histoire a le don de nous surprendre parfois.
Toujours.
À la semaine prochaine.
Les choses que je voulais faire, les promesses d'un été, qu'on allait longtemps se rappeler, les plans de dernière minute, se sentir libre sans parachute, le plus précieux, c'est du temps comme on veut. On peut-tu se taire, puis juste le faire, c'est aujourd'hui que débute la vie, c'est pas vrai qu'à la fin on va se dire. On n'aura pas pris le temps d'agir. On veut du star, puis juste le faire.
Tout peut faire du sens, faut juste que tu te présentes. Si tu peux vivre ta vie avec l'aide d'un parapluie, tous les jours sont des souvenirs, des rêves en devenir. Si tu peux vivre ta vie en dansant.
On veut du star. C'est aujourd'hui que débute la vie. C'est pas vrai qu'à la fin on va se dire qu'on n'aura pas pris le temps d'agir. On peut du star, puis juste le faire.
Olivier Couture et sa chanson « On peut-tu se taire ?»
La pièce de théâtre « Ses regards amoureux de garçons altérés » d'Éric Noël nous plonge dans l'intimité et la complexité des relations contemporaines. Cette œuvre marquante est présentée au Théâtre Prospero pendant le Festival Transamérique. Le texte, je le rappelle, a obtenu le prix du gouverneur général catégorie théâtre l'an dernier. Et c'est le comédien Gabriel Zabot qui est avec nous. C'est lui qui porte ce spectacle parce que c'est un long monologue. Donc, bienvenue Gabriel à l'émission.
Merci beaucoup.
Pour commencer, ce spectacle aborde la quête de l'absolu et les zones floues de l'amour à l'ère moderne. Je veux pas trop rentrer, je vais te laisser parler des détails de ça. Alors, comment décrirais-tu l'état d'esprit du personnage que tu interprètes sur scène?
L'état d'esprit, je ne sais pas l'état d'esprit, mais c'est un personnage, j'ai l'impression qu'il est, ça part de l'addiction à tout, ça part de l'addiction à l'amour, aux substances.
Ouais.
C'est quelqu'un qu'on trouve au début de la pièce, que ça fait 60 heures qu'il est dans une chambre de sauna gay. Ça fait 60 heures qu'il vient de... et qu'il a vécu tout ce qui se passe dans les saunas gays pendant ce temps-là. Et puis, on l'attrape, le début de la pièce, on l'attrape à ce moment-là où, à partir de là, on relate un peu tout ce qu'il a amené jusque-là, ses addictions au crystal meth, entre autres, parmi tant de drogues, et son addiction à l'amour, son addiction à Manu, qui est un garçon de qui il est tombé amoureux. Et là, on l'assiste, on le voit monologuer pendant une heure et quart sur tout ça, sur son histoire d'amour, sur son addiction et sur son besoin d'amour.
J'ai déjà reçu Éric Noël pour en discuter de cette pièce.
Okay.
C'est une pièce qui est quand même basée sur son expérience à lui. Éric le dit, c'est une personne qui a été accro au crystal meth, qui s'en est sortie, mais ce n'est pas une pièce où on fait... Il n'y a pas de morale, là. On n'est pas en train d'arrêter de consommer, on fait juste en parler.
Oui, exactement. Je pense que c'est ça qui fait la force de ce texte-là, qu'il n'y a pas de jugement sur où est rendu le personnage. C'est vraiment juste, on l'attrape à un moment, puis lui-même ne se juge pas. Puis, au contraire, on essaie d'aborder le texte comme étant quelque chose de... Même si c'est tellement dur, les termes qu'on aborde, et il y a une espèce de... Il est en paix avec ça, malgré tout. Puis il voit, il approche d'un côté romantique tout ça. C'est une quête d'absolu incroyable qui est prise avec des chemins de traverse qu'on peut juger, mais qu'on ne juge pas dans la pièce, nous autres.
C'est un texte qui possède donc une poésie très, très singulière, c'est brut, c'est intime, Qu'est-ce qui a été le plus grand défi en tant qu'interprète là, pour habiter ces mots-là?
Oh my God!
Ben, j'en ai des bonnes questions, des fois, le matin de bonne heure comme
ouais,
ça.
C'est ça. mais déjà, juste le fait d'être tout seul, c'est la première fois que je faisais quelque chose tout seul sur scène. Puis la manière dont est écrit le texte, c'est très saccadé. C'est des petites lignes. Des fois, les lignes vont être un seul mot. J'ai l'impression que ça a pris du temps à essayer de casser cette rythmique-là qui appartient à l'écriture d'Éric,
ouais.
mais qui appartient pas nécessairement au langage oral. Puis avec Philippe, le metteur en scène, Philippe Cyr, c'était de... C'est ça, d'essayer de casser cette rythmique-là pour pas entrer dans quelque chose de trop... oublier un peu la poésie du texte écrit pour le donner et qu'il soit intelligible... oralement, sans devenir trop une espèce de scansion, je sais pas si c'est un bon mot, je pense, j'ai l'impression.
Une tension, ouais.
Mais une espèce de... Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'était casser un peu le texte,
ouais.
le côté écrit de la chose. Et...
C'est ce qui fait que c'est intéressant, parce qu'on peut lire Éric Noël,
exact.
On peut le voir.
Exactement.
Et c'est pas...
C'est
deux expériences différentes. Ouais. Ouais. Moi, j'aimerais aussi te parler de d'autres défis. C'était plus fort que moi, faut que j'en parle. L'huile! Sur scène. Comment tu fais?
C'est de la glycérine, en fait.
Ah, c'est de la glycérine,
oui. C'est de la glycérine. Ça apporte tellement quelque chose d'incroyable. Comme là, on est dans les répétitions on est dans les répétitions depuis 2 semaines pour reprendre le spectacle, puis on n'a pas l'huile encore. Et elle me manque parce que ça apporte tellement quelque chose. C'est tellement... c'est tellement vulnérable d'être complètement... À la fin du spectacle, je finis complètement trempé, complètement huilé de glycérine. Fait que moi, j'adore ça.
Moi, j'étais dans l'inconfort pour toi. Je me disais, mais d'être huilé de même, c'est pas évident. Puis,
ouais. Non, ça apporte quelque chose. Moi, j'aime ça. Mais après, la douche est bonne. Après le spectacle, on se débarrasse de tout ça.
Quand j'ai vu la pièce, c'était à la petite salle du Théâtre Prospero. Très intime. Et c'était un décor qui était... mon Dieu, c'était très... Moi, je pourrais dire, on sentait la pression du décor parce que tu n'avais pas beaucoup d'espace de jeu.
Non.
Puis là, je parle d'espace à la verticale parce qu'à l'horizontale, tu en avais quand même
quand même un bon...
Comment ça va? Là, vous êtes sur la grande salle.
Sur la grande salle, mais on recrée cette ambiance-là très,
c'est possible.
Très intime. Oui, justement, je pense qu'ils vont... Je ne l'ai pas vu encore, je vais la voir après-demain, mais ils vont créer une espèce de boîte noire. T'sais, ce ne sera pas la jauge de la grande salle qui est plusieurs personnes. Là, on double le nombre de spectateurs. On est à 43. Je pense qu'on passe aux alentours de 100 spectateurs. Ouais. Fait qu'on reste dans ce côté-là très intime. Puis tout va être entouré de rideaux noirs. En tout cas, on m'a dit que ça allait être intéressant. Je suis très excité de voir.
Je vais être là jeudi, j'ai hâte de voir ça. Cool. Le spectacle s'inscrit donc dans la programmation du Festival Transamérique.
Ouais.
C'est un espace qu'on dit synonyme d'audace, de dialogue universel. En quoi cette pièce-là, à ton avis, résonne-t-elle avec le public là, du FTA ou de la mission du FTA?
Oh mon Dieu, je pense que justement, c'est d'approcher des expériences qu'on ne vit pas tous les jours, c'est d'approcher quelque chose que justement, qu'on aurait peut-être un peu peur ou on jugerait. Et c'est ça le théâtre en général. Et ce festival-là, effectivement, avec toutes les différentes formes d'art qui font partie de ce festival-là, j'ai l'impression que ça. On approche des nouveaux langages. Puis ce langage-là, c'est un langage d'addiction, de drogue, et on n'y va pas dans le jugement, on y va dans l'amour. Je trouve que c'est la beauté de la chose.
C'est plus fort que moi. En quoi tu... parce que là, c'est quand même un personnage assez spécial.
Ouais.
On s'entend que la consommation de Crystal Meth, ce n'est pas tout le monde.
Non.
Alors, comment tu trouves, toi, où puises-tu ton inspiration pour aller chercher cette compréhension du texte?
C'est... À force de parler avec Éric, puis aussi avec Philippe Cyr, le metteur en scène, on voulait pas non plus entrer dans le mimétisme de ça. J'aborde vraiment ce texte-là comme étant une histoire d'amour et le besoin d'amour et le besoin de combler un vide. Chose qu'Éric a... Ben là, je vais pas parler pour Éric, mais chose que j'ai l'impression que beaucoup de gens... On veut tous remplir un vide, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit à travers la drogue, à travers les relations avec les autres personnes. Donc, j'ai abordé comme ça, le besoin de remplir un vide.
Lors des représentations, les spectateurs, spectatrices ou spectatrices avaient la chance de te voir de près. Tu as eu des réactions. Comment ça a été reçu?
C'est quelque chose, surtout que c'est tellement petit, la petite salle du Prospero, que je les aspergeais d'huile, de glycérine. Ils participaient vraiment à l'aventure. C'est intimidant. C'était vraiment intimidant au début. Mais à un moment donné, vu que je m'adresse au public tout le long, ça crée des espèces de... d'un moment assez extraordinaire. C'est vraiment, j'entre en dialogue avec le public, c'est à eux que je m'adresse. Fait que chaque salle était différente et ça fait plaisir de voir les différentes réactions parce que je vois bien le monde sur la scène.
Mais ça va être différent cette fois-ci. As-tu des appréhensions ou des attentes?
C'est stressant. Je suis toujours stressé de toute manière. Fait que ça change pas grand-chose, mais oui, j'ai bien hâte de voir, mais ça, en même temps, ça reste intime. T'sais, c'est pas trop intense.
Oui, c'est vrai.
On va pouvoir élargir, mais on va garder cet esprit-là d'entrer dans la chambre de sauna avec ce personnage-là.
Effectivement, puis les chambres de sauna, c'est pas très grand.
C'est très petit.
Écoute, j'ai du temps, ça me tentait de parler d'autre chose de toi. Je t'ai vu dans une autre pièce de théâtre qui s'appelait « Moi, Jeanne ». T'as vraiment des rôles assez spéciaux, hein, le roi. Et tu parlais, je sais pas, à combien d'octaves plus haut, et t'as tenu ça tout le long. Comment tu fais ça?
ce spectacle-là... C'était avec Mélodie Noël-Rousseau et Geneviève.
Jeanne Lambert.
Labelle.
Labelle, merci, oui.
Et c'était tellement un cadeau, ce rôle-là. C'était tellement extraordinaire. C'est épique comme spectacle. On était 14, je pense, ou 12 sur scène. C'est complètement autre chose. Non, ça, c'est juste se péter un gros fun.
C'était tellement drôle. Moi, je t'avoue là, que j'ai roulé par terre à t'entendre sur scène.
Et jouer un roi, qui a pas ce fantasme-là un jour? Donc,
un roi
spécial.
Moi, c'est spécial, merci. Alors, est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent?
Pour l'instant, je suis sur ça. J'étais parti en tournée avec un autre spectacle de Philippe Cyr, Le Pas des fourmis, qu'on avait créé au Denis Pelletier de cela 6 ans. Je reviens de 6 mois de tournée en France avec ce spectacle-là.
Ben voyons donc, tu te promènes, toi?
Ouais, fait que ça, c'était super génial. Et là, l'année prochaine, il y aura encore de la tournée. Et...
Pour le même spectacle?
Oui, pour Le Pas des fourmis, ses regards va continuer de suivre sa route.
Et peut-être éventuellement une tournée aussi pour cette pièce d'Éric Noël, donc ses regards amoureux de garçon atterré.
Ça s'annonce bien, en tout cas, ça va tourner.
Ça marche beaucoup. Ben, grand merci, Gabriel. Est-ce qu'on peut rappeler les dates?
C'est du 4 au 7 au FTA à la Grande Salle du Prospero, 4 au 7 juin.
Ben, pour avoir des billets, vous allez sur le site du FTA, Festival Transamérique, ou peut-être du Théâtre Prospero.
Ou se pointer, je pense que c'est complet, mais on peut toujours se pointer une heure avant le spectacle.
Oui, il y a toujours cette possibilité au Prospero. En tout cas, je vais voir ça avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Gabriel Sabot.
Quand il fait tard le soir, je regarde tes stories. Je me demande comment je vais faire pour rentrer dans ta vie. Tu ne le sais pas, je suis obsédé par toi. De la patience, j'en ai pas. Maintenant, c'est mon tour. J'approche sans nous. C'est mort. C'est la seule femme qui est dans ma ligne de mire. Seulement si tu savais, je te lion depuis tout petit. Maintenant, c'est mon tour. J'approche sans nous, c'est mort. C'est la seule femme qui est dans ma ligne de mire. Seulement si tu savais, je te lion depuis tout petit. Voir tes abonnés monter me rend possessif. À chaque fois que tu poses, c'est ta silhouette qui me fascine. Bébé, j'ai le cœur fragile. À toi, je suis addict. Il faut que je m'isole, sinon la fin sera trop tragique. Maintenant, c'est mon tour. J'approche sans nous, c'est mort. C'est la seule femme qui est dans ma ligne de mire. Seulement si tu savais, je te lion depuis tout petit. Maintenant c'est mon tour. J'approche sans nous, c'est mort. C'est la seule femme qui est dans ma ligne de mire. Seulement si tu savais, je te lion depuis tout petit.
C'était la chanson « Mon tour » de Micro Dadon.
Dans la voie de l'Est du 30 mai, la plus récente marche pour l'Alzheimer de la Société d'Alzheimer, Broome-Missisquoi et Haute-Yamaska s'impose comme la campagne de financement la plus fructueuse parmi les 16 sociétés de la province. L'organisation annonce dépasser la barre des 130 000 $ de dons amassés, ce qui représente une hausse d'environ 30 % par rapport à l'année précédente et un bond marqué comparativement aux 35 000 $ récoltés en 2023. Cet événement rassembleur, soutenu par l'autrice Louise Penny et la docteure Mélissa Généreux, permet d'assurer des services essentiels et du répit pour les 2000 familles touchées par la maladie dans la région. Et voilà, c'est le temps de vous dire un petit coucou hein, quand la musique arrive comme ça, puis vous annoncer qu'après la pause, on va rencontrer une militante très importante depuis les années 80, Mercedes Roberge, qui consacre sa vie à l'égalité. Elle a reçu un doctorat honoris causa de l'Université du Québec à Montréal. Et après ça, on va parler de façon d'aller en nature, même quand on est sur l'île de Montréal ou dans des zones urbaines. Il y a toujours moyen de moyenner. Tout de suite, après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Dans le silence depuis l'enfance, je me cache, je m'efface. Mise en lumière, comment me faire? Cette place, moi qui suis née pour que l'on me voie. Entre deux filles, dis-moi qui je suis. J'ai besoin de trouver ma place. Je connais les conflits, je fais trop de bruit. Mais j'ai pas peur de mon audace. Regarde-moi bien en face. J'en ai assez, je veux briller à travers la nuit.
Que moi, par le passé, j'ai caché ces marques loin. J'ai tant menti, oh oui, bien trop de fois. Mais j'en ai assez, je veux briller à travers la nuit. Car les guerrières sont là et chantent encore, telle est ma vie. Oh,
chanson brillée de Hunter X.
Oui, là, la traduction française Golden, je pense que ça s'appelle en anglais. Et c'est... Ah, je ne me rappelle plus qui la chante. C'est pas Taylor Swift qui la chante en anglais? Je ne me rappelle plus.
Je vais vérifier.
On va vérifier ça. Mais ça me tentait de mettre un peu de pep, hein, parce que ça nous fait du bien. C'est l'été, il fait beau. Et surtout, ma prochaine invitée, c'est une figure incontournable des milieux féministes et communautaires au Québec. Militante depuis 1980, Mercedes Roberge consacre sa vie à l'égalité, la justice sociale et la transformation de nos institutions démocratiques. Elle coordonne depuis 2007 la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, tout en étant une référence absolue absolue en matière de réforme électorale. Elle sait beaucoup de chapeaux et elle va recevoir, je vais corriger, elle va recevoir bientôt un doctorat honoris causa de l'Université du Québec à Montréal. Mercedes Roberge, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Donc, on va commencer par le job que vous occupez. Vous coordonnez la table de, donc, qu'on a dit, là, de la table de regroupement provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles depuis 20 ans. Hein, ça touche 3000 groupes au Québec. C'est quoi le principal défi actuel des organismes comme ça pour préserver leur liberté d'action et leur autonomie face de plus en plus aux exigences des gouvernements?
Bien, c'est justement, tu viens de résumer, le défi, c'est de surveiller et de combattre toutes les atteintes, soit à l'autonomie, les atteintes qui passent aussi par des limitations aux droits d'association. Ça passe par le chemin souvent de règles financières, mais aussi ça passe par toutes sortes de projets de loi qu'il faut qu'on surveille au cas où il y ait des éléments qui finissent par réduire les capacités d'action des groupes communautaires et leur ancrage dans les communautés. Donc, ça peut venir de toutes sortes de provenance.
Les gouvernements nous disent toujours, on a vraiment besoin des groupes communautaires, ils font un travail important. Bon, en bon franglais, ils ramassent le slack, hein, qui n'est pas fait. Mais en même temps, ces organismes et plusieurs représentants d'organismes sont passés à ce micro pour nous dire qu'ils sont non seulement sous-financés et mal financés parce qu'on leur impose des règles à chaque fois qu'on leur donne du financement. Ça aussi, c'est un problème.
Oui, bien sûr. Il existe un financement qui s'appelle le financement de la mission globale. C'est souvent de ce financement-là qu'on parle. Les groupes avec qui moi je travaille, donc à la table, ce sont des groupes qui reçoivent ce financement-là ou qui en demandent, en tout le moins, de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux, et maintenant Santé Québec. Donc, c'est des groupes en santé et services sociaux, des groupes communautaires autonomes. Et, bon, ce financement-là est quand même celui qui offre le plus de latitude au groupe parce que la reddition de comptes, parce que les règles administratives sont plus légères, sont pas absentes, mais sont plus légères que d'autres formes de financement.
Par projet.
Par projet, mmh. Qui, là, sont à refaire à chaque année, qui sont à recréer, à réinventer à chaque année.
Alors il faut rentrer dans les critères aussi prescrits par ces programmes-là.
Il y a toujours des critères, de toute façon, dans tous les programmes, même dans le programme de financement de la mission globale, mais le financement de la mission globale est là pour assurer une pérennité. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on surveille, et on le surveille à toutes sortes d'égards. On surveille le taux d'indexation de ce programme-là parce que pour continuer... Oui, bien sûr, idéalement, avoir un rehaussement annuel, mais il ne faut surtout pas perdre de capacité face à l'année précédente.
Je vais vous ramener à 1995, je pense que la date est bonne. Vous avez contribué à la marche du pain et des roses, hein, une marche quand même emblématique, où on réclamait, en fait, hein, l'émancipation, les droits pour les femmes, et non seulement, là, on parle de toutes sortes de droits, là, pas juste le droit à l'avortement ou tout ça, mais plein de droits. Si on compare l'effervescence de cette époque à aujourd'hui, capacité de mobilisation, elle est rendue où, non?
En fait, en 1995, c'était la marche des femmes contre la pauvreté.
Contre la pauvreté, voilà,
donc,
oui.
C'est spécifiquement des revendications qui allaient soutenir les femmes en premier lieu, mais pas seulement les femmes, bien entendu, parce que c'est toute la société qui est moins pauvre lorsque les femmes sont moins pauvres.
Et leurs enfants?
Exact.
Parce que c'est souvent par là que ça passe aussi, hein, la pauvreté des enfants.
Oui. Et donc, en 1995, ça a été un événement marquant. Ça s'est resté dans la mémoire. On a souligné les anniversaires récemment, dont le 30e anniversaire. Et c'est resté dans la mémoire comme un moment important de mobilisation. Il y avait quand même 15 000 personnes devant l'Assemblée nationale en 1995.
Ouais.
Ce record-là a été battu depuis, mais à ce moment-là, c'était un record. Et ça montrait l'adhésion de la population aux revendications féministes.
Mmh.
Et ça a été important pour le mouvement féministe, ça a été important aussi pour le mouvement communautaire mixte, parce que le mouvement communautaire s'est aussi beaucoup impliqué dans cette marche-là. Les mouvements syndicaux aussi se sont impliqués beaucoup. Et ça a créé un sentiment de solidarité très fort qui a donné de l'énergie pendant quelques années qui ont suivi. Mais évidemment, comme tout, il faut toujours rallumer la braise.
Mais de nos jours, est-ce qu'on pourrait faire une autre marche comme ça?
Oui, mais les revendications seraient présentées de manière différente, oui, c'est certain. En 95, par exemple, on demandait l'application de la loi sur l'équité salariale. Bon, alors, bien sûr, on est ailleurs, mais il faut quand même encore surveiller son application. Alors, c'est pas gagné, c'est jamais complètement gagné, il faut toujours préserver.
Si vous me permettez, je vais faire une parenthèse, mais c'est quand même intéressant. Hein, les joueurs de hockey qui sont des millionnaires, les joueuses de hockey, on est à peu près quoi? À 100 000 $ hein? C'est le gros salaire maximum qu'elles ont, les joueuses professionnelles. Alors, si on veut parler d'équité salariale, ça, c'est un bel exemple, hein?
Tout à fait. Bien sûr, il y a toutes sortes de lieux dans la société où il y a des manques d'équité.
Un autre sujet, puis on pourrait continuer en long et en large sur le communautaire et les personnes minorisées ou marginalisées. Dans un autre de vos sujets de prédilection, c'est le système électoral. Puis ça fait longtemps que ça vous intéresse, cette réforme du système électoral. Pourquoi?
Ah, ça m'intéresse. Ça a commencé à m'intéresser lorsque j'étais au collégial. J'ai découvert dans un cours sur la politique que des systèmes électoraux étaient différents d'une autre et étaient meilleurs. Alors, ça a été une espèce de révélation. J'ai repris après ça l'intérêt et j'ai surtout mis beaucoup d'énergie à documenter, à analyser les résultats électoraux, à examiner les systèmes à l'extérieur, dans d'autres pays pour qu'on voit quels étaient les défauts du système actuel, le majoritaire uninominal à un tour, pour le nommer, et vers quoi on devrait aller parce que d'autres modèles existent qui sont des modèles qui amènent un résultat proportionnel.
Plus précisément, parce que le temps me manque, mais plus précisément, je pense que ce qui vous intéressait, si je ne me trompe pas, c'était un frein direct à l'exercice de la citoyenneté et à l'égalité des genres.
Oui, c'est sûr, parce que... Pour moi, un mode de scrutin, ce qu'on doit rechercher d'un mode de scrutin, c'est que tous les votes comptent, mais aussi que toutes les personnes comptent. Mm-hmm. Et ça veut dire que toutes les personnes se sentent appelées à poser leur candidature, que toutes les personnes se reconnaissent en regardant le portrait de famille des membres de l'Assemblée nationale une fois élus, qu'on puisse connecter avec les personnes qu'on mandate pour prendre des décisions à notre nom. Et ça, pour moi, c'est important. Donc, ce n'est pas seulement un calcul de pourcentage de vote et d'un calcul mathématique. C'est de s'assurer que les gens qu'on mandate pour nous gouverner, non seulement les partis qui se réunissent à l'Assemblée nationale pour faire ça, sont le reflet de ce que la population demande, mais aussi que les personnes qui administrent tout ça se sont reliées à la population, que tout le monde se reconnaît dans tout le monde.
Alors, c'est des promesses qui n'ont jamais été tenues par beaucoup de gouvernements. Continuez à vous battre quand même malgré ça?
Ah oui, bien sûr, parce que c'est le propre de la transformation sociale, de toute action qui cherche la transformation sociale. Et de la militance, c'est le propre de la militance. Lorsqu'on travaille pour obtenir quelque chose, ben, tant qu'on ne l'a pas, on continue.
J'aimerais terminer avec parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire avec vous, mais ce doctorat honoris causa, comment vous le recevez?
Ah, c'est vraiment chouette. C'est très, très impressionnant et je trouve ça chouette pour moi, bien sûr, bien entendu, mais aussi pour le mouvement communautaire, parce que c'est pas des reconnaissances qu'on reçoit souvent. Et moi, mon parcours n'est pas un parcours universitaire. J'ai appris en travaillant dans le mouvement communautaire, en militant dans les groupes communautaires. Puis je ne suis pas la seule à avoir ce parcours-là. Mais que ce résultat-là, que ces connaissances-là soient reconnues comme un apport important à la société, c'est important et ça fait du bien, je trouve, à tout le monde. Ça fait du bien au mouvement. Je suis contente.
Puis je pense que vous croyez beaucoup à ce transfert, à ce partage des savoirs, hein?
Oui, bien sûr, parce que comment on ne peut pas espérer des changements seul de son côté. Il faut faire une gang, il faut avoir un mouvement, il faut se mettre ensemble.
Ah, je vais dépenser un petit montant. Un message à toutes ces autres personnes militantes là, en herbe ou qui commencent de votre part?
Oh, il ne faut pas lâcher, c'est difficile. Il faut reconnaître que c'est difficile. Ça prend de l'énergie, ça prend du courage, ça prend de la motivation, ça prend des encouragements aussi. Mmh. Et c'est important qu'on se les donne, ces encouragements-là, entre nous.
Surtout de nos jours. J'aime pas ça le répéter, mais c'est vrai que il me semble que le climat n'est pas très bon dans notre société ces jours-ci. Là.
Non, mais c'est pas le seul moment où c'est pas bon.
Ouais.
C'est souvent comme ça.
Il faut regarder ça avec un recul.
Et c'est important, il faut célébrer tous les gains. Puis les gains, c'est pas seulement les résultats positif, c'est aussi d'avoir combattu. C'est un gain.
Excellent. Et merci beaucoup, donc, Mercedes Robert. J'ai félicitations pour ce doctorat honoris causa que vous allez recevoir
le 5 juin.
Ah, bien, félicitations. Merci.
Merci.
Sale barbe et la chanson Aïe.
Ah, écoute, ça donne un peu l'envie de faire la fête. C'est joyeux. C'est comme l'été qui s'installe. À Montréal, de nombreux citoyens, de nombreuses citoyennes cherchent de nouvelles façons de reconnecter avec la nature sans quitter l'île. En fait, c'est comme ça hein, dans plusieurs grandes villes ailleurs, ici au Canada, dans le monde. Hein, on cherche à sortir du béton et de la chaleur, mais quand on n'a pas d'auto ou qu'on est à mobilité réduite ou carrément par choix éthique et environnemental, ben, c'est pas toujours facile de trouver la nature. Ben, on peut le faire, surtout ici à Montréal. Et pour en parler, ben, je reçois Nathalie Dion, qui est directrice générale du groupe UNI, des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement. J'aime bien ça, ça s'appelle le GAEP. Puis il y a beaucoup de GAEP à Montréal, mais peut-être pas des GAEP aussi intéressantes que le GAEP. Madame Dion, bonjour!
Oui, bonjour, M. Chabot, ça va bien?
Ça va très bien. Ah, quel beau nom, j'aime beaucoup ça. Alors, si on peut résumer là, la mission principale que se donne le GAEP à travers toutes ces activités pour l'été 2006, ça serait quoi?
Bien, écoutez, nous, on est un organisme qui vise la sensibilisation, l'éducation aux sciences de la nature et de l'environnement. Puis il y a toutes sortes de façons de vulgariser les sciences. Donc, on a beaucoup d'activités diversifiées pour toute la population. Je pourrais vous parler de long en large de notre programmation d'activités. On en a pour tous les goûts, que ce soit des activités d'interprétation nature, des activités pour la famille comme initiation à la pêche ou encore... des activités en kayak ou exploration des îles. Donc, on veut faire découvrir la ville autrement. Il y a plusieurs espaces naturels à découvrir à Montréal. Et quand même assez facile d'accès aussi. Donc, on vise à faire découvrir, comprendre et vivre la nature.
Ce que je trouve intéressant de votre offre, en tout cas, que j'ai vu sur votre site web, c'est qu'on est vraiment sur l'île de Montréal. C'est accessible par transport en commun, par vélo. Et c'est accessible. On n'a pas besoin d'avoir un véhicule. Si on est à mobilité réduite, c'est accessible. Ça faisait partie de votre regard là, sur le travail sur les activités que vous proposez?
Oui, tout à fait. Tu sais, ça fait 35 ans qu'on existe, comme je vous dis, fait qu'on essaie d'adapter nos activités de plus en plus pour toute la population. Donc, on met même des questionnaires aussi quand les gens s'inscrivent, s'ils ont besoin d'adaptation pour les activités, parce qu'on veut vraiment que les gens se sentent inclus. On a certaines activités que c'est facile d'accès pour les gens à mobilité réduite. Il y en a d'autres que c'est peut-être un petit peu moins facile, mais des fois, on peut aussi ajuster le débit ou parler plus lentement ou marcher moins vite, etc. Fait qu'on s'adapte à tout type de public. On veut vraiment que les gens nous le disent aussi. C'est ça qui est super important pour nous.
Bon, c'est de l'indiquer quand on s'inscrit. On va parler de ces activités. Bon, on a parlé de randonnée. Il y a des animations que je trouve intéressantes, pour ne pas dire intrigantes. J'en ai une que j'ai vue, l'activité qui s'appelle le chant des anours.
Oui, là, je pense qu'on a terminé avec ça, le chant des anours. Ben, ça se passe au printemps, hein, parce qu'on veut écouter nos grenouilles sur le bord des marais, etc. Donc, c'était une activité de découverte et d'écoute active. Mais je crois qu'on a d'autres activités cet été qui sont plus en lien avec les chauves-souris, etc. Fait qu'on essaie de s'adapter en fonction du milieu. Qu'est-ce que le milieu naturel peut nous faire découvrir? Puis peut-être inusité, puis qu'on n'a pas la chance souvent de participer.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de faune, hein? Beaucoup de faune, de flore intéressante ici à Montréal. Alors, c'est le fun de les découvrir. Hein? On pense tout savoir, mais on ne sait pas tout. Hein?
Oui.
J'aimerais vous amener sur votre volet nautique qui semble assez important. Je pense à des sorties en kayak dans l'archipel d'Hochelaga. Ça, c'est des expériences qu'on fait au coucher du soleil, c'est ça?
Dans l'archipel, c'est plutôt durant la journée. Au coucher du soleil, on les fait plus du côté du site nautique du Cap Saint-Jacques. Les couchers
du soleil, l'autre, OK, j'ai mêlé les deux. Ouais.
Exact. Mais dans le fond, on a 5 sites nautiques sur l'île de Montréal. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Fait que quelqu'un qui est d'un niveau peut-être un peu plus intermédiaire, qui a envie de partir à la découverte des îles de l'archipel, durant la journée, on a des activités qui sont offertes à tous les dimanches. Fait que c'est un beau, une belle façon de découvrir Montréal autrement. Ou encore, sinon, si on va voir le coucher de soleil au Cap Saint-Jacques, je pense que c'est tout à fait magnifique. On a des sessions de kayak aussi qu'on offre pour les gens qui ont envie de peaufiner un peu leur pratique et d'avoir de meilleures techniques. Ben, c'est comme intéressant d'avoir ces sessions de kayak-là qui durent trois fois. Mm-hmm. Donc, on a beaucoup d'initiations, beaucoup pour favoriser la pratique de ce sport-là puis d'initier les gens.
Bon, vous avez des excursions en fat bike, en vélo pour découvrir, explorer les milieux naturels. Ça pose toujours une question, comment on peut faire ça tout en respectant la biodiversité de nos parcs?
Bien, ce qui est important, après ma barre, c'est vraiment de rester dans les sentiers. Hein. C'est ce qu'on favorise tout d'abord et de respecter la nature qui nous entoure. C'est quand on parle de respecter, ne pas jeter de déchets, etc. Il y a une façon de profiter de la nature sans avoir d'impact sur elle, c'est de la respecter.
Oui. Les familles, les jeunes sont, de toute évidence, hein, quand on fait le tour de ce site web, les familles, les jeunes, ils sont au cœur de vos préoccupations. On parle de camp de jour, d'initiation à la pêche. Alors, comment on adapte le discours des éducateurs naturalistes pour s'assurer d'avoir l'attention des jeunes et surtout des tout-petits?
Oui, tout à fait, parce que ça nous arrive même de faire des comptes pour des 18 mois. Donc, vous comprenez qu'on s'adapte en fonction du public, on va changer le langage, la façon d'approcher, etc., que ce soit des activités qu'on fait pour les 3-5 ans, par exemple, mais c'est sûr qu'on ne fera pas le même genre d'activité pour des adultes ou pour des aînés. Fait qu'on s'adapte vraiment en fonction. Notre équipe est formée là-dessus. On a des formations à l'interne et on a suivi des formations externes aussi. Fait que chaque naturaliste est formé pour pouvoir s'adapter à tout type de public et selon les besoins.
Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir à Montréal?
Il y a tellement de choses. Je vous invite vraiment à aller voir notre site web. C'est vraiment décrit. Vous pouvez filtrer par région, par arrondissement même pour voir. Vous pouvez aller voir des activités de découverte, les premiers pas en nature pour les 3-5 ans, aller voir nos expositions, aller voir des kiosques d'informations sur sa bouche et les animaux, en apprendre un peu plus sur la faune. qui nous entoure. Les activités de pêche aussi sont vraiment très, très populaires. Il y en a dans plusieurs arrondissements. Ça, je vous invite à consulter ça. On a des rallyes de printemps aussi. Vraiment, je trouve qu'on en a pour tous les goûts. Vraiment de plus en plus accessible au niveau transport en commun, que ce soit d'aller au parc au Rouen dans l'arrondissement d'un petit quartier ville, le parc de la Visitation ou encore le cap Saint-Jacques aussi. La plage est maintenant accessible via le REM. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts.
Bon, les activités sont essentiellement gratuites, mais il y en a des payantes aussi, hein, c'est ça?
Oui, il y a quelques activités payantes là, qui nous permettent justement, nous, de peaufiner nos formations et l'offre qu'on fait. Donc, il y a certaines activités payantes, toujours à un coût abordable parce que ça reste dans notre principe et notre façon de voir les choses. Mais beaucoup d'activités sont gratuites, donc à voir.
Alors, les gens font un peu d'exercice, mais en même temps, ils apprennent des choses sur leur ville et la région dans laquelle ils vivent.
Exact. Et quel meilleur moyen de dire on protège ce que l'on comprend, n'est-ce pas?
Ben oui.
On adapte ça. Fait que plus les gens vont comprendre ce qui les entoure, ce qui anime, ce que la biodiversité nous offre, plus ils ont envie de la protéger. Donc, ça fait partie de notre mission.
Ouais, j'ai fait une petite recherche pour voir s'il y a deux genres de ces activités-là qui existent ailleurs. Il y en a quelques-unes. Ça existe dans d'autres villes ici au Canada où on est diffusé. Alors, c'est intéressant, là, tout le monde, si ça vous intéresse, de faire une petite recherche là, avec votre moteur de recherche sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. Vous allez pouvoir voir ce genre d'activité qui semble être de plus en plus populaire, en effet.
Oui, on a vraiment une demande importante pour nos activités. On trouve ça vraiment intéressant que les gens s'intéressent de plus en plus à la biodiversité. Puis effectivement, on est présent dans d'autres régions, là, que ce soit en Estrie, à Sherbrooke, dans Charlevoix et même en Outaouais. Donc, on est de plus en plus sur plusieurs territoires.
Bien, c'est ça. Puis ça permet aux gens, comme je disais, ceux qui n'ont peut-être pas d'auto, qui sont peut-être pas... On n'est pas toujours très, très riches. C'est pas toujours facile de se déplacer. Au moins, quand on peut le faire près de chez nous, c'est déjà ça de gagner. Pour les Montréalais et Montréalaises qui veulent planifier leur été, il faut aller sur le site web, c'est ça?
Oui, le site web gaep.qc.ca et aller dans la section calendrier. Vous allez voir tout un offre d'activités. Et c'est bien ici, les activités qui sont gratuites ou avec un tarif. Et les activités qui sont avec ou sans inscription, dépendant et certaines fois qu'il faut limiter le nombre de participants.
Bon, bien, Nathalie Dion, directrice générale du groupe qui s'appelle donc Groupe Uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bien, merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Et voilà, l'émission au quotidien tire à sa fin pour aujourd'hui, ce lundi 1er juin. Puis c'est le premier jour de l'été météorologique. Évidemment, l'été officiellement, c'est le 21 juin. Mais bon, on va profiter du beau temps. C'est presque, il fait beau presque partout, sauf à Terre-Neuve où il y a de la neige. Bon, ça arrive. Et il y a de la pluie, beaucoup de pluie en Alberta. Il y a même une alerte météo là-bas. Et donc, je vous invite, là, si vous habitez là-bas, ben, de sortir votre parapluie puis votre grand ciré, hein. C'est comme ça que ça se passe. Merci à toute l'équipe aujourd'hui. Salut Mathieu, merci. Bonne journée à toi. Merci d'avoir été là aujourd'hui, Mathieu Tessier. Je remercie Hélène Denis qui contribue à la recherche de cette émission. Qu'elle anime hein, pour le moment du mardi au jeudi. Je la remplace les lundis. Et de mon côté, je vous invite ce week-end un autre épisode de Affirmation. Une émission qui passe le samedi à midi. Merci beaucoup. À la prochaine.